Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Voilà, nous sommes toujours dans le confinement indispensable suite à ce que vit notre pays, ou plutôt l'humanité actuellement, à travers ce virus, ce coronavirus. J'espère que vous vous portez bien, que vous vous adaptez à cette situation exceptionnelle et que le Seigneur continue à parler à notre cœur et nous accompagner selon sa volonté parce qu'il est souverain, il prend contrôle de toutes choses. Avant de partager avec vous le message d'aujourd'hui, je dirais partager avec vous le message qui vient d'un frère. Et ce message qui date de 1998, commençons d'abord par la prière. Père éternel, gloire, louange, honneur à toi pour les siècles des siècles, pour l'éternité. Tout vient de toi, par toi et pour toi, tu es éternel, tu es souverain, tu prends contrôle de toutes choses. Tu nous dépasses. Tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voix ne sont pas les nôtres. Merci Père éternel pour le don de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ en qui tu as mis toute ton affection. Un Fils avec un F majuscule qui est le pourquoi de la création. Tu en as fait l'origine, le cheminement et l'aboutissement. Le chemin, la vérité et la vie. Dans ta grâce, tu nous as unis à ton bien-aimé Fils, Père, jusqu'à nous porter à la croix, en sorte que nous pouvons dire aujourd'hui, en Christ nous sommes morts à nous-mêmes, mais en Christ nous sommes ensevelis et en Christ nous sommes ressuscités et assis à ta droite, Père. Je remets entre tes mains la situation que nous vivons, qu'elle puisse nous interpeller, remettre les pendules à l'heure, nous montrer à quel point nous sommes vulnérables. Pardonne-nous, Père éternel, si nous avons fait de la science et de l'homme des dieux, avec des minuscules. Que cette situation nous ouvre les yeux, que les écailles tombent de nos yeux, que le voile se déchire. Et que nous réalisons que nous sommes créés pour te rencontrer en Christ, ton bien-aimé Fils. Je te prie pour cette matinée, pour ce message que nous partageons dans la communion fraternelle. Qu'au-delà des mots, tu parles à notre cœur. Que ces mots soient actifs dans notre vie quotidienne. Que la connaissance dépasse le savoir intellectuel, qu'elle devienne vie. Pratique, tous les jours, que cette connaissance devient un cheminement de métamorphose, de transformation, que cette connaissance fasse de nous des disciples acceptant de porter notre croix, c'est-à-dire de suivre le cheminement que le Seigneur a suivi, mort et résurrection, vivre cette métamorphose, cette transformation permanente, que tu puisses régner en nous et que nous puissions nous écrier, s'écrier comme l'apôtre Paul dans Galates 2:20, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi Christ qui vit en nous. C'est quelque chose qui nous dépasse, nous sommes incapables d'accomplir. Mais en toi, Père éternel, en ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, cette réalité peut devenir naturelle, normale, parce qu'elle vient de toi. Et pas de nous. Je te prie pour toutes les familles qui souffrent, qui pleurent un être cher à cause de ce que nous vivons actuellement, à cause de ce virus. Je te prie de les accompagner dans cette douleur. Toi seul peux les consoler. Comme je te prie pour tous ceux qui souffrent de ce virus, que ce soit chez eux ou à l'hôpital. Je te prie de les aider, de les accompagner afin de traverser cette épreuve dans la sérénité. comme je te prie pour les frères et sœurs de notre Église qui souffrent d'une autre raison que ce virus, qu'ils souffrent dans leur chair ou moralement. Je te prie donc de les accompagner dans cette épreuve, dans ce cheminement, d'être avec eux, avec elles, afin qu'elles puissent traverser cette fournaise, cette épreuve, dans la sérénité et surtout dans la paix, étant assurées et rassurées par ta présence, et de nous aider dans la communion fraternelle, à nous joindre à ces frères et sœurs dans leur situation, dans leur douleur et dans ce qu'ils vivent. Que ta volonté se fasse, Père éternel, parce qu'elle est bonne, parfaite et agréable. Que tu nous apprennes l'humilité, la simplicité, de vivre dans la repentance, de nous libérer du jugement. Quelle terrible, je dirais, gangrène, quelle terrible maladie que de porter un jugement hâtif, facile, simple, sur une situation qui nous dépasse. Je te prie de nous délivrer de cela, que nous puissions voir à travers tes yeux, et que nous puissions avancer étant couverts par ta grâce, dans l'amour et le pardon. Que ta volonté se fasse encore une fois, en ton nom, Père éternel, au nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, et au nom de l'Esprit-Saint. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui, je dirais, il est en rapport avec l'actualité que nous vivons, en rapport avec l'histoire de l'Église. Oui, l'Église, depuis maintenant plus de 2000 ans, elle vit, je dirais, tantôt dans une paix, dans une bénédiction divine, tantôt éloignée, mais en tout cas, l'Église traverse des épreuves, traverse des tentations. Le message d'aujourd'hui vient de notre frère Serge Tarasenko, que j'ai connu personnellement et que Dieu a permis de se dresser, d'être là sur mon chemin au début de ma conversion, au début quand le Seigneur a permis que mon cœur s'ouvre à lui, à la fin des années 80, début des années 90. Un message centré sur la croix. La croix, pas comme simple solution à nos bobos ou à nos problèmes, mais la raison même de l'existence de l'être humain, la raison même de la création. Une croix cosmique, une croix qui dépasse l'entendement. Ce frère, à travers le message d'aujourd'hui, qui s'intitule « Les trois aspects fondamentaux de la tentation », nous interpelle. Oui, nous interpelle et interpelle l'Église. C'est un message qui a aujourd'hui 22 ans et le message s'adresse à notre époque, à ce que nous vivons actuellement. Les trois aspects fondamentaux de la tentation. Oui, l'Église est confrontée à la tentation. Le chrétien est confronté à la tentation. Mais nous devons nous rappeler que nous avançons en étant vainqueurs. C'est paradoxal. Souvent, on dit qu'il faut avancer pour vaincre. Oui, mais le privilège que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous avançons en sachant qu'en Christ, nous avons la victoire. C'est-à-dire, tant que nous sommes en Christ, nous avançons en plus que vainqueurs. Il suffit de lire Romains chapitre 8, verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est seulement dans cette position de vainqueur en communion en Christ, celui qui a vaincu, que nous pouvons vivre cette victoire d'une manière pratique. Oui, c'est parce qu'en étant en Christ, c'est-à-dire en celui qui a vaincu, que nous pouvons à notre tour marcher pour vaincre d'une manière pratique. Il suffit de lire Apocalypse chapitre 2 où quatre fois au moins il est question de « à celui qui vaincra ». Au chapitre 2, versets 7, 11, 17, 26, il est question à celui qui vaincra. Remarquez bien ce singulier, il n'est pas dit à ceux qui vaincront, non, à celui qui vaincra. C'est-à-dire sous la responsabilité de chacun de nous, que de vivre cette victoire. Mais on ne peut la vivre que dans une communion avec Christ, en Christ, qui a tout accompli, qui a vaincu. Il faut d'abord apprendre à s'asseoir dans cette position, en Christ, pour réaliser que Christ a tout accompli. Et quand cette réalité est révélée dans notre être intérieur, alors nous pourrons avancer et nous pourrons vivre d'une manière pratique les versets du chapitre 2 de l'Apocalypse à celui qui vaincra. Oui, le message d'aujourd'hui que j'ai entendu maintes fois et je l'ai écouté encore ce matin avant de partager avec vous, il nous parle encore aujourd'hui. Oui, il nous parle encore aujourd'hui parce que il lève le voile sur l'histoire de l'Église, sur la tentation, en s'appuyant sur celui qui s'est humilié jusqu'à revêtir notre propre nature. C'est-à-dire, c'est celui qui a accepté de devenir comme moi, comme nous, vulnérables, mais sans succomber à la tentation, parce qu'il était sans péché. Oui, c'est ce Christ qui a accepté de passer par le baptême dans le Jourdain. Après quoi, il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Et c'est durant cette tentation dans le désert où notre frère Serge Tarasenko dévoile, nous explique un peu les différentes tentations dans l'Église sera confrontée, dans le chrétien sera confronté durant l'histoire de l'Église. Je précise juste que souvent, nous parlons de la tentation comme de quelque chose que nous pouvons vaincre humainement. Et c'est là le mensonge. La tentation que le Seigneur a accepté de vivre dans le désert, c'est une tentation qui dépasse les petites tentations charnelles. C'est quelque chose de spirituel. Le Seigneur a accepté de revêtir notre nature, de revêtir notre vulnérabilité, mais en étant dans la communion avec le Père dans l'Esprit. Il nous a montré, à l'encontre d'Adam et Ève, Christ a vaincu. Je vous laisse écouter ce message qui ne dure pas très longtemps, une trentaine de minutes, et que le Seigneur nous fasse grandir dans la communion fraternelle, que ce message soit un fil conducteur, un point commun dans lequel nous réalisons que nous sommes unis dans cette réalité, qui n'est rien d'autre que Christ, et Christ mort et ressuscité, Christ le Fils de Dieu. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans son Église et en chacun de nous, frères et sœurs. Je vous laisse écouter le message.
Je ne peux que me rappeler les sept lettres de l'Esprit aux Églises dans l'Apocalypse qui survolent l'histoire de l'Église. Certes, elle s'adressait à des églises particulières de l'époque, mais par-delà le temps et l'espace, elle s'adresse jusqu'à nous. Elle s'adresse à toute forme d'église, de dénomination, et aussi elle s'adresse à tous les problèmes, à toutes les tentations qu'a connues l'Église. Si vous les parcourez rapidement, vous constatez qu'avec la première église, celle d'Éphèse, c'est le refroidissement dont il est question. Combien d'églises se sont refroidies après avoir reçu le sceau de l'Esprit? Ensuite, avec l'église de Smyrne, nous allons jusqu'à la persécution. Et je ne peux que me rappeler, quelquefois dans les larmes, cette église du silence, église persécutée derrière le rideau de fer. Je suis russe moi-même d'origine, et je ne peux pas oublier mes frères qui souffrent par milliers. Mais croyez-moi, ce qui est semé là n'est pas perdu, car un jour tout cela portera des fruits, ici même, sur cette terre. Nous verrons une puissance extraordinaire de l'Esprit déferler de l'Est vers l'Ouest, j'en suis persuadé. Ensuite, si nous passons à l'église suivante, l'église de Pergame, eh bien, c'est la tentation de l'embourgeoisement, de l'emprise des finances. Je pense à certaines églises américaines que j'ai visitées qui sont vraiment enfermées dans un système financier qui marche exactement comme un business quelconque. Elles tournent en tant qu'affaires, mais qu'est-ce qui reste de l'esprit ? Plus loin, nous arrivons à l'église de Thyatire, qui alors symbolise ce piège de l'idolâtrie, de l'impureté et des philosophies diverses qui se glissent dans les églises. Et nous avons connu cela, nous connaissons cela même aujourd'hui, dans certaines célèbres grandes dénominations où des philosophies apostases s'emparent des chrétiens et les font dévier vers des croyances trompeuses. Et ensuite, en prolongeant notre survol des églises, nous passons sur Sardes, qui est l'assoupissement total. Combien d'églises sont complètement endormies maintenant, où les gens ne viennent que pour suivre une tradition et pour, en quelque sorte, remplir un devoir et repartent ensuite dans la semaine sans jamais avoir rien reçu. N'est-ce pas là l'image de l'église de Sardes ? Et sautant par-dessus Philadelphie, dont je reviendrai, nous arrivons à Laodicée, qui est en quelque sorte l'apostasie finale. Le compromis avec le monde. L'église où on n'est ni froid ni bouillant, l'église mondiale comme je la vois venir. Car un jour, chers frères et sœurs, il y aura une église officielle mondiale qui rassemblera toutes les croyances que vous pouvez imaginer, toutes les religions, y compris le marxisme, qui est une autre forme de religion. C'est l'église de Laodicée. Voyez comment l'esprit parle aux églises à travers ce survol extrêmement rapide que j'ai fait, mais je vous invite à relire ces 7 lettres dans cet esprit. Ça, c'est l'attaque. Mais il y a un côté positif, un côté réjouissant pour le cœur de celui qui aime son Seigneur. Et ce sont les réveils qu'on a constatés. L'histoire d'Angleterre a été modifiée de fond en comble par le réveil de John Wesley. Sinon, l'Angleterre aurait été la première république démocratique marxiste de tous les temps, à la fin du XVIIIe siècle. Les réveils, il y en aura encore, il y en a peut-être, dans les pays de langue anglo-saxonne, au Canada, en Nouvelle-Zélande, et en Indonésie, il y a des réveils extraordinaires. Quel côté positif qui dénote l'effort de restauration de l'Église. Car quand je dis restauration, cela veut dire que Dieu rassemble les membres épars, disloqués de son corps, si amputés, si défigurés par les déchirements internes. Un mouvement de l'esprit souffle parmi nos frères, les Romains catholiques. Un mouvement de l'esprit extraordinaire souffle au milieu de l'église orthodoxe russe en persécution. C'est ça la restauration. Et Dieu rassemble son corps. Les credos, les différentes traditions s'abaissent pour laisser passer le souffle de l'esprit qui nous rassemble. Sur la place Saint-Pierre, l'année dernière, il y a eu un rassemblement charismatique d'une portée inégalée, où des gens de toutes races, de toutes couleurs, ont chanté, ont dansé sous la puissance de l'esprit et se sont trouvés unis en un seul corps. En Grande-Bretagne, en ce moment, des communautés naissent partout, des réunions de quartiers, de maisons, des gens qui se réunissent, qui redécouvrent la réalité de la Bible, qui redécouvrent la promesse de Dieu dans le Saint-Esprit et qui reçoivent la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas un signe positif de la fin des temps ? Mais savez-vous que l'adversaire le sait ? Et l'adversaire jette les forces incroyables dans la bataille. Il joue ses dernières cartes, chers amis. Et l'une de ces cartes, peut-être la moins visible, mais l'une des plus subtiles, est la tentation. Et je vous invite aujourd'hui à redécouvrir l'actualité de la tentation en lisant avec moi le récit de la tentation du Christ dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 1er jusqu'au verset 13. Luc, chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, Et afin qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tout le royaume de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voyez que Christ a été tenté, et dans Hébreux 4.15, si vous relisez ce verset, il a été tenté exactement comme nous, mais dans une actualité extraordinaire. Évidemment, il a été tenté dans une dimension bien supérieure à ce que souvent nous entendons par le mot tentation, les tentations de la chair, les petites choses, les tentations de dire un mot un peu vilain, toutes ces petites choses. La tentation du Christ a une dimension bien supérieure. Elle est caractéristique de sa mission. Cette tentation a été, comme on dit, un choc eschatologique. Ça veut dire un choc d'une portée extraordinaire qui mettait en conflit les puissances les plus grandes qu'il y ait. Et qui non seulement englobait la future histoire de l'Église, mais touchait jusqu'à la victoire finale de Dieu sur la mort et sur le diable, quand il sera jeté dans les temps de feu. Voilà la dimension de la tentation du Christ. Voilà la dimension du choc avec la puissance de l'ennemi. Cette puissance dirigée depuis le départ contre l'intention divine. Cette intention dont nous avons parlé hier soir a été sans cesse combattue depuis le véritable début, par l'adversaire. Dans quel but a-t-il tenté le Christ? Toujours dans le même but, dans le but de dévier le Christ de sa mission. Car l'adversaire ne voulait pas que Christ meure en sacrifice sur la croix. Il aurait bien mieux préféré que Christ meure tranquillement sur son lit comme n'importe qui. Et le monde n'aurait jamais connu le salut. Donc, effort de déviation de sa mission et de l'accomplissement de la volonté de son Père. L'un des ministères de l'Esprit de Dieu, c'est notre sanctification. Pas dans le sens seulement de faire de nous de bons êtres humains, mais surtout dans le sens de nous mettre progressivement et continuellement à part pour son service. Pas seulement en tant que prédicateur ou pasteur, mais chacun de nous a cette vocation d'être mis à part. Et ainsi, nous devons nous mettre à part et détecter tout ce qui se ligue contre l'intention de Dieu à notre égard. Tout ce qui nous empêche d'accomplir notre mission, notre service pour le Seigneur à 100%. Et c'est exactement l'axe que l'adversaire vise. C'est l'axe directeur dans lequel va agir la tentation, qui est, comme je l'ai dit, la réaction des puissances de l'obscurité contre l'intention divine. Ainsi, nous allons pouvoir ce matin redécouvrir le sens de la mission du Christ, et donc de la nôtre, à travers trois aspects fondamentaux de la tentation. Tout d'abord, la réalité de la tentation. Si vous examinez ce récit, vous remarquerez que cette tentation, ce n'est pas du théâtre. C'est une tentation réelle, avec toute sa portée. L'adversaire démontre une remarquable puissance. Songez un peu les éléments mis en jeu. Ces royaumes du monde montrés. On est loin de la petite tentation charnelle que l'on peut avoir. Une puissance extraordinaire et une initiative. L'adversaire démontre aussi des changements de front sans cesse renouvelés. Il fait monter le Christ en haut du temple. Il lui fait voir les royaumes. Il lui fait voir les galets. Sans arrêt, attaque de toutes les directions. Et une extrême mobilité de l'adversaire. Et aussi une initiative dans le dialogue. Christ n'a pas mené le dialogue. C'est l'adversaire qui a mené le dialogue. C'est l'adversaire qui emmenait le Christ. Et ce n'est pas le Christ qui allait dans une direction suivie par l'adversaire. L'adversaire avait l'initiative. Et savez-vous, Jésus était vulnérable. Vulnérable parce qu'il avait épousé la condition humaine jusqu'au bout. Il avait pris toutes nos faiblesses. Et il était aussi vulnérable, sinon plus, que chacun de nous. Parce que sa condition était exactement semblable à la nôtre. Il n'était pas cette image que l'on représente quelquefois du Fils de Dieu invincible, bardé d'acier comme un chevalier, avec de l'acier en telle quantité que même les balles, les obus peuvent ricocher dessus sans lui faire aucun effet. Non, il était très exposé. Il était très contraint aussi, physiquement. Il a été tenté, rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémané. La contrainte physique a été telle que des grumeaux de sang sont sortis par les pores de sa peau. Qui d'entre nous a connu une contrainte physique de cet ordre? Mais la différence essentielle était qu'il était sans péché. Par conséquent, l'adversaire n'avait aucune prise sur lui. Car le péché, c'est comme un tremplin, une tête de pont pour l'adversaire. Il pose pied sur toutes les zones obscures de notre vie et à partir de là, il commence à rayonner ses attaques sur nous. Le Christ était absolument sans péché. Voilà la réalité de la tentation du Christ. Maintenant, la réalité de sa victoire. Cette victoire n'a pas été gagnée dans une situation différente de la nôtre, avec des ressources non disponibles pour nous, pas du tout. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il avait exactement, comme je l'ai dit, la même situation, la même configuration que la nôtre, et il avait les mêmes moyens que nous, qui nous sont rendus disponibles. Et malgré cela, toutes les forces de l'adversaire n'ont pas été toutes les forces liées de l'adversaire n'ont pas eu raison de lui. Eh bien, tout simplement parce que, bien qu'ayant notre chair, il ne vivait pas selon la chair. Il ne donnait pas la primauté de la chair sur l'esprit. Il ne donnait pas la primauté de son moi. C'était une personnalité importante, c'était le Fils de Dieu. Eh bien, même dans sa vie sur la terre, cette personnalité du Fils de Dieu n'avait aucune importance par rapport à la volonté de son Père. Voilà ce que c'est de mettre l'esprit devant la chair. Et aussi, parce que la puissance purifiante et sanctifiante, celle qui nous met à part, a pu pleinement opérer en lui, sans lui conférer toutefois une immunité particulière. Comme je l'ai dit, il n'avait aucune défense particulière, aucune antidote contre le péché. Sa victoire a été complète, bien que dans une identité complète avec notre condition de chair. Et ainsi, il est en mesure de nous joindre du même esprit sanctificateur qui nous met à part, de nous mettre progressivement, et ça prend du temps, à part pour notre mission. Nous avons une intention précise dans le plan de Dieu, chacun de nous, extrêmement spécifique à nous, et notre devoir, c'est de nous laisser mettre à part par l'esprit. Et ainsi, il est en mesure, par sa parole, de nous recréer progressivement. Cette parole qui a créé l'univers, cette parole qui a vaincu l'adversaire, elle est là à notre disposition pour nous progressivement mettre à part. Rien d'étonnant, tout comme le Seigneur qui avait reçu la puissance du Saint-Esprit, rien d'étonnant si nous, après avoir reçu le revêtement de l'Esprit, nous sommes conduits dans le désert spirituel. Et c'est là que commence le combat. Beaucoup de chrétiens sont abattus à cette sensation du combat qui commence. Et certains même vont dire, c'est une faillite pour moi. Je suis Oh, je suis tellement opprimé par l'adversaire, certainement quelque chose ne va pas. C'est une faillite. Mais au contraire, ce n'est pas une faillite. C'est là que l'épreuve commence, dans laquelle Dieu permet le combat afin que tout ce qui est encore chair en nous, qui n'est pas soumis à l'esprit, disparaisse. Ceci est la réalité de la victoire. Maintenant, quelles sont les formes de la tentation? Le tentateur s'attaque au Christ en tant que fils. Et ça, c'est très important. Il ne s'attaque pas au Christ en tant qu'être extraordinaire, ou prophète, ou prédicateur, ou simplement juif d'une condition particulière. Il s'attaque au Christ en tant que fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, plusieurs fois, il le répète, il met en doute. Et il attaque après son revêtement par le Saint-Esprit dans les eaux du Jourdain. De même, l'adversaire va toujours mettre en doute notre filiation à Dieu le Père. C'est la chose qu'il mettra en doute dans toutes les tentations. Analysez toutes vos tentations et vous retrouverez toujours ce dénominateur commun, c'est notre filiation au Père à travers Jésus-Christ qui est mise en cause par l'adversaire. Eh bien, si nous doutons de cette filiation, si nous en sommes oublieux, eh bien, nous n'allons pas pouvoir utiliser les dons de l'Esprit venant du Père en tant qu'enfants de ce Père. Et ce que nous allons faire, nous allons les gaspiller, nous allons détourner la mission, le rôle de ces dons. Ainsi, dans les trois formes rencontrées dans la tentation du Christ, nous allons découvrir trois aspects fondamentaux qui nous concernent au plus haut point. Tout d'abord, Christ est tenté d'abuser de sa qualité de fils de Dieu. Dans la deuxième tentation, il est tenté d'abandonner sa qualité de fils de Dieu. Et enfin, dans la troisième tentation, il est tenté de se prouver à lui-même qu'il est le fils de Dieu. Examinons cela dans le détail. Première tentation, il est tenté d'abuser de sa qualité de fils de Dieu, c'est-à-dire d'abuser de la puissance reçue dans le but de satisfaire des besoins immédiats. Que ces pierres deviennent du pain. Voilà la tentation. Il avait faim, il avait des besoins immédiats absolument légitimes. Donc, la tentation est d'abuser de cette puissance pour satisfaire des besoins immédiats. Et c'est la tentation qui guette l'Église. Quand cette Église, peut-être par quelques-uns de ses membres, utilise la puissance du Saint-Esprit pour une satisfaction de besoins immédiats, une recherche de solutions instantanées à tout problème, une sorte de hâte de voir la chose s'accomplir immédiatement, une guérison par exemple. Très souvent, aussi pour satisfaire à une curiosité spirituelle, une soif du surnaturel qui va en grandissant. Ainsi, c'est la façon la plus subtile de sombrer dans le charnel, le limité, d'asservir les dons spirituels à l'affirmation de l'homme charnel, maître instantané des calamités grâce au surnaturel qui lui semble asservi. Et les Corinthiens sont tombés dans ce piège. Relisez les Corinthiens. L'issue de sortie à cette tentation, eh bien, c'est la réaffirmation des priorités. La parole de Dieu, créant l'univers, recréant l'homme en Christ, voilà le miracle des miracles. Voilà la priorité des priorités. Et c'est cette même parole qui révèle la sagesse de Dieu dans tous les problèmes sans exception. Par conséquent, vous voyez immédiatement que la recherche d'une solution immédiate, qu'elle soit surnaturelle ou non, est l'expression d'un certain aveuglement. Et cet aveuglement, précisément, nous conduit à la panique, à la hâte, qui nous fait retomber dans notre état d'homme charnel. Deuxième tentation, Christ est tenté, après avoir été tenté d'abuser, il est tenté d'abandonner sa qualité de fils de Dieu. L'adversaire, à cet effet, fait étalage d'une gamme impressionnante de formes, de domination et d'autorité. Pas forcément toutes d'apparence diabolique, lorsqu'il montre tous ces royaumes, toutes ces puissances terrestres, et Dieu sait s'il y en a qui sont fortes, elles n'ont pas toutes l'apparence diabolique, loin s'en faut, l'astuce de la manipulation par l'adversaire se révèle extraordinairement dominante dans tant de gouvernements et d'autorités. Combien de masses de peuples sont manipulés par des gouvernements d'une façon tellement subtile que personne ne se rend compte et suit comme un troupeau de moutons dociles et fidèles. Satan a une emprise extraordinaire sur les autorités, mais je le rappelle, pas forcément d'une façon visible toujours. Et c'est en sorte l'image de la tentation qui a toujours guetté l'Église et infiltré même. C'est-à-dire l'obsession d'une certaine puissance. L'Église a été et sera jusqu'à la fin des temps d'une certaine façon obsédée par une puissance naturelle. Il y a eu des églises séculaires, une puissance extraordinaire, et aussi surnaturelle. L'Église peut être obsédée par une recherche de puissance surnaturelle, en tant qu'Église locale, par exemple. Et aussi la tentation qui est le manque de discernement quant à l'origine de cette puissance. Cette tentation prend appui dans ce manque de discernement. Quelle est l'origine de cette puissance? Est-ce qu'on examine les esprits? Et aussi, le manque de discernement quant à la façon dont cette puissance est exercée. On recherche le remarquable, l'extraordinaire. Et dans combien d'assemblées, le contrôle des esprits et des prophéties semble totalement inexistant. Or, c'est un commandement de l'apôtre Paul. Contrôler les esprits, contrôler les prophéties. Et enfin, le manque de discernement dans le but que cette puissance est censée d'atteindre. Et très souvent, on assiste à la manipulation des gens d'une église pour qu'un ministère, un pasteur, soit reconnu comme tel, comme quelqu'un qui a une puissance, et même admiré. Eh bien, la porte de sortie à cette deuxième façade de la tentation se trouve dans une recherche exclusive, presque puritaine, je dirais, de la volonté et de l'intention divine seule. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu serviras. Lui seul. Voilà la priorité à mettre pour échapper à cette deuxième tentation qui était d'abandonner sa qualité de fils de Dieu. Troisième tentation, le Christ est tenté de se démontrer, de se prouver sa qualité de fils de Dieu. Comment? Eh bien, en utilisant la puissance charismatique pour établir un statut spirituel spécial, exclusif. Et dans cette tentation, l'astuce diabolique consiste d'abord à lui faire douter, à lui faire oublier sa qualité de fils de Dieu, à l'effacer. Et ensuite, la lui faire retrouver dans un acte à sensation. Jette-toi du haut du temple. Où il se prouverait à lui-même, ah oui, mais je n'ai pas perdu ma qualité de fils de Dieu. Je l'ai, regarde comment je suis capable de me jeter et je ne me tue pas. Il se prouverait ainsi qu'il est réellement le fils de Dieu. Voyez l'astuce diabolique. Et souvent l'adversaire nous conduit dans des situations où nous prenons d'office le commandement, l'initiative des opérations à caractère spirituel, sans nous douter que nous sommes complètement en dehors du contexte du plan de Dieu. Si cela s'applique pour l'Église, cela s'applique aussi pour le couple homme-femme. Quand l'homme ou la femme peut quitter le contexte du couple et agir de son côté séparé, et c'est ce qui est arrivé à Ève, tout à fait au début de l'histoire de l'homme, d'agir en dehors d'un contexte, car le couple était le plan de Dieu, et alors Satan l'a eu, parce qu'elle est sortie de ce contexte du plan. Et très souvent dans le couple, beaucoup de ménages s'écroulent parce que c'est exactement ce qui se produit. Si Dieu ne nous arrête pas à temps par quelques cuisantes défaites qu'il permet, alors nous établissons dans une sorte de supériorité spirituelle. Surtout parce qu'il y a un semblant de réussite au départ dans nos opérations. Cette initiative paye, alors nous nous croyons supérieurs. Et c'est ainsi que très souvent, par exemple, celui qui parle en langue se retrouve soit condamnant, soit méprisant les autres. il se découvre supérieur. Il trahit par là son obsession pour un statut spécial. Et l'autre, celui qui n'a pas ce statut, entre guillemets, se sentant menacé dans son état à lui, en éprouve du ressentiment. Et c'est ainsi que la division commence à s'introduire. Obsession d'un statut spécial. En fait, notre statut de fils de Dieu en Christ n'a rien à voir avec la mesure et l'exercice que nous avons des dons spirituels. C'est Dieu et Dieu seul qui nous a fait ses héritiers. Et les dons ne sont que les arts de cet héritage. Nous sommes fils par la parole faite chair, par la parole crucifiée et par la parole ressuscitée le troisième jour. Et le Saint-Esprit en rend témoignage à nos esprits. Romains 8, 16, relisez. Nous n'avons qu'une chose à faire, croire ce témoignage. Recevoir ce statut de fils comme un don et non pas le soumettre à un test, ce qui est très dangereux. Car nous ouvrons la porte à l'adversaire et il peut faire des ravages extraordinaires. Et c'est seulement dans cet état, c'est seulement après que les dons surnaturels prendront toute leur signification, car ils sont alors correctement utilisés. Nous venons d'examiner les trois aspects fondamentaux de la tentation. Et en conclusion, je vous invite à jeter vos regards en arrière dans l'histoire des hommes, 17 siècles en arrière, et essayer de revoir cet empire romain qui s'écroulait dans un amas de cendres, de feu, de sang. Une civilisation entière était en voie de disparaître. Mais une société alternative émergeait de ces ruines, émergeait du sang des martyrs. Une société de gens qui étaient des églises, peut-être locales, mais qui étaient surtout le corps du Christ. Et qui passaient, qui surmontaient ces tentations. Et regardez le résultat. Ça a été le berceau de la civilisation la plus extraordinaire que l'histoire des hommes ait jamais connue. Une civilisation à la brillance culturelle, aux réalisations technologiques, à la connaissance jamais égalée. La foi chrétienne en a été le moteur. Si vous étudiez l'histoire des arts, de la science, c'est incroyable de voir à quel point des hommes convaincus des réels fils de Dieu en Christ ont été au point tournant de ces élancés dans la science, dans les arts, et même dans la pensée, dans la religion. C'est la fidélité à la parole, c'est le rayonnement de l'amour, c'est le sel de la terre qui a prévalu. Et surtout parce que la tentation qui a été celle des églises que nous avons énumérées a été la leur aussi, comme elle est la nôtre maintenant. Mais maintenant, si nous arrivons au XXe siècle, nous constatons que ce géant vacille. Peut-être ce géant de la statue de Daniel, en train de tituber, ivre d'orgueil et de puissance et de folie, secoué par lui, géant d'une musculature, d'une stature extraordinaire, secoué par l'instabilité et la fragilité des pactes à caractère politique, tremblant de fièvre économique, découvrant une maladie qui le surprend comme une fièvre, une très forte poussée de fièvre, l'inflation, les dépressions diverses, qui impose à la société des contraintes terribles qui se traduisent par des convulsions comme les grèves, l'injustice sociale, la violence, et aussi cette décomposition de la société, l'érotisme, l'égoïsme, la convoitise, partout, une décomposition progressive, un affaiblissement, un géant qui vacille, et finalement une gangrène qui le prend de partout à la fois, car pas un pays n'échappe à cette menace hideuse du marxisme qui ronge toutes nos structures, qui exploite les moindres défauts de cuirasse et qui monte progressivement au pouvoir. Un marxisme qui est une forme horrible de totalitarianisme dont nous en connaissons des formes déjà visibles et qui gagne ce qui fut un jour le berceau d'une civilisation extraordinaire. L'obscurité grandit. Satan jette toutes ses forces dans la bataille, vous ne savez pas pourquoi, parce qu'il sait qu'il a perdu. Il le sait depuis 20 siècles qu'il a perdu. Il a découvert sa défaite le matin de la résurrection. Mais il en profite. Il en profite parce que peu le savent qu'il est vaincu. Beaucoup le chantent, beaucoup le prêchent, mais combien réalisent que lorsque Satan les tente, ils peuvent lui dire « Recule, rappelle-toi 20 siècles, tu as été vaincu, tu n'as plus aucun droit sur moi. » Et c'est ainsi que l'esprit au plus fort de la tentation nous rappelle 7 fois dans ses lettres aux églises « Celui qui vaincra ». Cela veut dire « Celui-là s'emparera d'une victoire déjà acquise sur la croix ». Rappelez-vous ces paroles de l'apôtre Paul, « Nous sommes plus que vainqueurs dans celui qui nous a rachetés ». Pourquoi plus que vainqueurs ? Être vainqueur potentiel d'une bataille, Napoléon, Austerlitz par exemple, il savait qu'il allait vaincre, il n'avait pas encore la victoire dans sa main, mais les éléments étaient en sa faveur, il savait que tout s'acheminait vers la victoire. Il a été vainqueur, mais nous sommes plus que vainqueurs, parce que avant que la bataille soit terminée, nous savons déjà que nous sommes vainqueurs. C'est ça être plus que vainqueur. Et c'est ça que nous devons sans cesse rappeler à l'adversaire lorsqu'il nous tente, lorsqu'il tente nous en tant qu'individus, en tant que couple, en tant que famille, en tant que corps du Christ dans l'Église et en tant qu'homme dans la société. Le monde entier, c'est-à-dire des millions d'aliénés, d'opprimés, de gens corrompus, attendent ce sursaut, peut-être le dernier de l'histoire, ce sursaut d'Église. Ils ont les yeux désespérément, mais secrètement fixés, braqués sur les fils du Père Céleste. Vous ne savez pas à quel point le monde nous observe. C'est incroyable. Ils ont les yeux fixés parce qu'ils espèrent. Ils ne savent pas quoi. Est-ce que nous allons les décevoir ? Allons-nous triompher des tentations qui, quotidiennement et semaine après semaine, s'abattent sur nous, sur notre Église ? Ou alors allons-nous sombrer ? Et pour une fois, finale, terminer l'histoire des Églises dans une note extrêmement négative. Le Seigneur dit, par la bouche de l'Esprit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. »
Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, voilà le message que je souhaitais partager avec vous, le message du frère Serge Tarasenko, un message qui me paraît parlant aujourd'hui. J'espère que ce message parle à votre cœur, parle à mon cœur, parle à notre cœur, et que Dieu accomplisse son œuvre en chacun de nous, dans son Église, et que sa volonté s'accomplisse. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, chers amis, de vivre cette communion avec le Seigneur, de vivre cette dépendance de lui, de vivre ce brisement qui ouvre la porte à la délivrance. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, et que Dieu vous accompagne. Et je vous dis à très bientôt.